Une semaine d'actualité.
Bonjour, bienvenue et merci d'être au rendez-vous. Je le disais samedi dernier, l'émission entame sa 20e saison, sa 20e année donc. Nous y reviendrons ces mois prochains dans une émission spéciale. D'ici là, si vous êtes fidèle à une semaine d'actualité, envoyez-nous un message pour nous dire notamment depuis combien de temps vous nous écoutez. Cela nous intéresse et nous ferons part de vos envois à l'antenne.
Pierre-Edouard Deldic.
Une semaine d'actualité donc. Après le flash, nous reviendrons sur les temps forts de ces 7 derniers jours en Afrique. Rendez-vous également avec vos messages. Nous allons parler aujourd'hui, cette semaine, ce samedi, de l'Arabie Saoudite avec notre invité Pierre Conessa. Bonjour Pierre Conessa.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et là, nous allons parler de l'Arabie Saoudite, de votre dernier livre, Docteur Saoud et Mr. Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, publié chez Robert Laffont avec une préface d'Hubert Védrine. Et vous commencez ce livre ainsi, Pierre Conessa. Les Saoudiens constituaient le contingent le plus nombreux de combattants étrangers en lutte contre l'armée rouge en Afghanistan, des terroristes du 11 septembre, des prisonniers de Guantanamo et aujourd'hui des membres étrangers de l'État islamique, Daesh, donc en Syrie et en Irak. Cette appétence pour le djihad doit bien avoir une raison.
Absolument, je crois qu'il faut partir de ce constat. Les sujets saoudiens sont présents sur tous les lieux de conflit, brandissant toujours la thématique du djihad.
Oui.
Voilà. Donc, il faut essayer de remonter à l'origine et à trouver une explication de cette appétence extraordinaire de l'Arabie saoudite pour le djihad, à condition que ça se passe à l'extérieur. Attention, hein, ne confondons pas. Donc voilà, on en parlera si vous le souhaitez.
Alors évidemment, on va en reparler, Pierre Conessa. Vous donc vous intéressez, vous décortiquez, vous analysez les raisons et la puissance de cette diplomatie religieuse. Et vous écrivez « La diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite est une mécanique soutenue par le système politique, mue par un groupe religieux à l'ambition planétaire, les oulémas wahhabites. »
Donc, oui, ce qui m'a intéressé...
coordination de la politique et du religieux.
Oui, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement d'étudier le système. Je vous, je ne me suis pas penché sur les théologiens parce que un théologien musulman français m'a permis de clarifier considérablement le propos en disant, écoutez, le wahhabisme ou le salafisme, comme vous voulez l'appeler, c'est la version la plus sectaire, la plus raciste, la plus antisémite, la plus misogyne, la plus homophobe de l'islam. Bon, donc finalement, j'ai dit, il vaut mieux se placer sur le terrain des idées politiques et donc essayer de comprendre comment fonctionne le système qui diffuse un message aussi sectaire et aussi intolérant. Bon. Et en fait, premier constat, constat historique, l'Arabie saoudite, ce n'est pas seulement la mise en place de la dynastie Saoud, c'est la mise en place de la dynastie Saoud et de la dynastie Al-Sher, c'est-à-dire les descendants d'Abdelwahab, qui depuis, sauf certains épisodes, tiennent toujours le poste de grand mufti, c'est-à-dire du plus haut dignitaire de l'ordre wahhabite. Et donc progressivement, c'est constitué un système qui souffre d'une contradiction structurelle, c'est qu'à chaque fois que la dynastie Saoud a besoin des mécréants pour sauver sa tête, 91, la guerre du Golfe, le GIGN, ouais, etc., pendant la prise de la Grande Mosquée en 79, à chaque fois, pour se faire excuser religieusement, ils en appellent aux oulémas, qui vont lui fournir une justification avec une science jésuitique, si vous voulez, qui est au moins aussi forte que celle de nos théologiens. Et donc, à chaque fois, en échange, le pouvoir dynastique accorde aux oulémas plus de pouvoir, de contrôle sur la société et sur la diplomatie religieuse.
Et il faut préciser ce que vous faites, d'ailleurs, Pierre Conessa, dans ce livre, que la diplomatie religieuse naît donc en même temps que le royaume.
Oui, à mon avis, elle est inscrite dans le patrimoine génétique du royaume. C'est-à-dire qu'il est hors de question, à mon avis, d'imaginer que demain, les Saouds puissent faire autre chose que la diplomatie religieuse qu'ils ont menée depuis la création du régime. Il n'y a pas d'opposition libérale en Arabie Saoudite. Il faut le répéter parce qu'on pourrait se bercer d'illusions. Non, il y a une opposition ultra-conservatrice qui peut être encore plus radicale que les responsables religieux qui, évidemment, considèrent que leur avenir est lié à la dynastie des Saouds. Donc, ils vous fournissent ce qu'on appelle un salafisme quiétiste. Et ce salafisme quiétiste, si vous voulez, dont je vous ai expliqué les caractéristiques en idées politiques, c'est-à-dire racisme, sexisme, homophobie, etc., etc., est en fait un terreau qui prépare le djihad. Parce que, vous savez, ça revient comme si à se demander si Hitler, avant de prendre le pouvoir, était un nazi quiétiste, quoi. Bon, en fait, s'ils ont le pouvoir, ils l'utilisent dans le sens indiqué par leurs idées politiques.
Alors, Pierre Conessa, parlons sans tarder des relations tendues, elles sont au cœur aussi de ce livre, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre sunnites et chiites. Cette semaine, il se trouve qu'il y a eu un article intéressant publié par un haut dignitaire religieux iranien dans les colonnes d'un journal américain. Nicolas Falaise nous a tout expliqué mercredi.
C'est un éditorial signé du chef de la diplomatie iranienne et publié par le quotidien américain New York Times. « Débarrassons le monde du wahhabisme », écrit Mohamed Javad Zarif, en référence au dogme ultra-conservateur en vigueur en Arabie Saoudite. Quelques jours après les commémorations des attentats du 11 septembre 2001, le ministre iranien des Affaires étrangères accuse le royaume saoudien d'avoir inspiré et financé les mouvements radicaux sunnites d'Al-Qaïda au groupe État islamique. Le discours n'est pas nouveau de la part de la République islamique d'Iran, mais il intervient après de nouveaux échanges très vifs ces derniers jours sur fond de pèlerinage des musulmans à la Mecque. Cette année, aucun fidèle iranien n'effectue le pèlerinage, les deux pays n'ayant pu s'entendre sur les mesures de sécurité demandées par Téhéran après la bousculade meurtrière de l'année dernière. Cette semaine, le roi Salman d'Arabie Saoudite a critiqué tous ceux qui tentent de politiser le pèlerinage, allusion indirecte à l'Iran, soupçonné par les Saoudiens de vouloir organiser des manifestations à la Mecque.
Alors, direction l'Arabie Saoudite, justement, Pierre connaît ça avant de vous retrouver. Arabie qui a créé, figurez-vous, une télévision éphémère à destination des Iraniens, à l'occasion donc de ce pèlerinage à la Mecque, Riyad Clarence Rodriguez.
La chaîne est destinée à diffuser le message du Hajj, les préceptes immuables de l'islam et les services rendus par le royaume aux pèlerins, déclaration ce dimanche du ministre saoudien de l'information Zaid Al-Trifi. Les programmes diffusés depuis samedi soir sur une chaîne satellitaire s'adressent en particulier aux téléspectateurs parlant le persan. Ils sont 130 millions à travers le monde, y compris les 60 000 pèlerins iraniens qui devaient se rendre cette année à la Mecque pour y effectuer le Hajj. Mais faute d'accord de négociation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ces fidèles ont dû rester à la maison. Peut-être regarde-t-il la retransmission des programmes du Hajj sur cette chaîne saoudienne diffusée 24 heures sur 24 jusqu'à mercredi prochain. En prenant cette initiative, il y a manifestement une volonté des autorités saoudiennes d'apaiser les vives tensions confessionnelles et fratricides entre Riyad et Téhéran.
Alors Pierre connaît ça, il y a eu un certain nombre de déclarations ces derniers jours de dignitaires saoudiens, commencé par le roi d'Arabie Saoudite, qui ont critiqué l'Iran. Donc il faut rappeler que cette lutte, enfin cette division avec l'Iran s'est accentuée avec la mort de centaines de pèlerins en 2015 lors justement du pèlerinage. Et le gouverneur de la province de la Mecque a appelé l'Iran, a mis en garde carrément l'Iran contre l'usage de la force.
Donc il y a des tensions. Je crois que si vous voulez, d'abord, il faut comprendre que la dynastie Saoud n'a pas de légitimité des descendants du prophète. Et donc, cette maîtrise géographique de l'espace des villes de Médine et de la Mecque est masquée derrière le titre que se donne la dynastie saoudienne de serviteur des lieux saints. Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois que d'autres musulmans contestent la légitimité du régime, on entre dans un débat politico-religieux. Et ce débat politico-religieux, qui évidemment commence en 79, quand la révolution islamique iranienne et Khomeini en particulier prétendent, si vous voulez, prendre la tête de la communauté musulmane dans sa partie révolutionnaire. Et dès le début, si vous voulez, Khomeini conteste la légitimité des Saoudiens à gérer l'espace. Les Saoudiens eux-mêmes ont toujours utilisé le pèlerinage comme un moyen politique. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de penser que c'est un simple exercice religieux. D'abord parce que les Saoudiens eux-mêmes mettent des élèves de l'école de l'université islamique de Médine pour accompagner les pèlerins, pour bien les guider selon le rite wahhabite. Et un des points de divergence avec l'Iran était justement que pendant la période révolutionnaire de l'Iran, les chiites voulaient absolument faire une manifestation de dénonciation du mal. Vous imaginez ce qu'il y avait derrière le mal, c'était les Américains et les Israéliens. Bon. Et donc à chaque fois, cette manifestation a dégénéré, à chaque fois il y a eu répression, à chaque fois, etc. Bon. Et donc on est dans cette situation aujourd'hui où la dynastie Saoud va être d'autant plus intransigeante face à ces accusations qu'encore une fois, elle n'a pas la légitimité que par exemple Al-Baghdadi va prétendre avoir dans l'État islamique ou que le roi du Maroc...
L'auto-proclamé calife de
l'auto-proclamé calife. Ouais. Donc la dynastie Saoud est dans une difficulté qui explique en partie son intransigeance, explique d'ailleurs aussi son intransigeance et son combat violent contre beaucoup de chiites un peu partout sur la planète.
Alors, on va revenir sur la façon avec laquelle l'Arabie Saoudite développe ses idées et sa propagande de son territoire vers le monde. Mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les relations complexes, mystérieuses de l'Arabie Saoudite avec les États-Unis. On a commémoré il y a quelques jours les attentats du 11 septembre. Il faut rappeler qu'il y avait parmi les terroristes, ce qu'on a fait au début de cette émission, avec votre livre, beaucoup de Saoudiens. Alors, le Congrès des États-Unis a autorisé ces derniers jours des poursuites contre Riyad. Vous avez l'air de dire que, de toute façon, ça ne va pas impressionner outre mesure l'Arabie Saoudite.
Je crois que, si vous voulez, le tour de passe-passe fantastique que réussit la diplomatie saoudienne, c'est effectivement le 11 septembre. Donc 15 Saoudiens sur 19 terroristes, et donc Ben Laden comme organisateur général, etc. etc. Et 3 mois après, George Bush fait un fantastique discours sur l'état de l'Union, en janvier 2002, dans lequel il explique que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Les Nord-Coréens ont dû être assez surpris, d'ailleurs, de penser qu'on les accusait des attentats du 11 septembre. Et donc, on a blanchi complètement l'Arabie Saoudite dans cette affaire. Et deuxième chose qui, évidemment, a constitué une espèce d'épine irritante dans toute la vie politique américaine, c'est que sur le rapport du Congrès sur les attentats des 11 septembre, 28 pages ont été caviardées par George W. Bush, un personnage, justement, dont les liens avec l'Arabie Saoudite sont évidents. Et ces 28 pages, pendant des années, ont été demandées par les congressistes. Bon, elles ont été déclassifiées par Obama il y a peu de temps. Et évidemment, ces 28 pages développaient ce qui, à l'époque, paraissait des liens avec des autorités saoudiennes, des diplomates saoudiens, etc., qui auraient, dès cette époque, ouvert le droit à cette classe action qui, aujourd'hui, certaines des victimes veulent entamer à l'encontre de l'Arabie Saoudite. Mais on a quand même gagné 15 ans. Donc, on vous rendez compte un peu de cet état de censure dans cette démocratie, qui, je le rappelle, quand même... n'a jamais mis en accusation son président, quand même, George Bush. Tout ce qu'il a risqué, c'est un jet de chaussures par un journaliste irakien qui manquait d'entraînement, en plus. C'est-à-dire qu'il ne l'a même pas touché. Donc.
Et ce statut particulier de l'Arabie Saoudite aux États-Unis continue, Pierre Connaisseur.
Oui, alors c'est une forme de lobby très caractéristique, si vous voulez. L'Arabie Saoudite ne peut pas compter sur une diaspora d'expatriés actifs intégrés dans la société américaine. Donc, la stratégie de l'ambassadeur saoudien, et en particulier celui qui est resté une vingtaine d'années en poste, c'est de toujours pouvoir garantir qu'il accédera au bureau ovale sans passer par le département d'État. Et donc ça passe par un investissement sur les candidats, des formes de subventions, des achats de chaires universitaires dans les grandes universités américaines, des dons à des fondations, etc., etc. Et encore une fois, toujours la nécessité de pouvoir accéder au sommet. Et donc je raconte un épisode que je trouve particulièrement truculent, c'est-à-dire comment les Saoudiens ont obtenu le vote du Congrès qui opposait un veto à la vente d'AWACS, les avions radars à l'Arabie Saoudite. Eh ben, il a suffi que le roi d'Arabie Saoudite déplace un certain nombre de ses comptes en banque, si vous voulez, sur des banques qui n'étaient pas tenues ni par la famille Rockefeller ni rien, et qui ont provoqué d'un seul coup, si vous voulez, ce basculement. Donc il y a une capacité d'influence, un lobby très spécifique.
Alors, direction des États-Unis, justement, Pierre Connessa, pour revenir cette fois sur la santé d'Hillary Clinton, donc candidate démocrate à l'élection présidentielle. Hillary Clinton qui a dû faire une pause dans sa campagne présidentielle pour cause de pneumonie. De nouveau, l'état de santé de la candidate démocrate devient une affaire politique outre-Atlantique. Washington lundi, Anne-Marie Capomaccio.
À quel point Hillary Clinton est-elle fragilisée par son problème de santé? Les images de la candidate trébuchant, puis soutenue par ses gardes du corps pour rentrer dans sa voiture sont dévastatrices. Le silence de son équipe de campagne après le diagnostic de pneumonie vendredi dernier alimente les théories les plus folles. Les médias américains se perdent en spéculation. Les organes de presse favorables à Donald Trump se demandent déjà qui peut remplacer Hillary Clinton si l'ancienne secrétaire d'État devait abandonner si près du but. Les médias plus neutres ou plus favorables aux démocrates invitent des médecins qui donnent à longueur d'antenne leur expertise sur la pneumonie, l'âge de la candidate et les conditions d'un rétablissement plus ou moins rapide. Hillary Clinton est restée silencieuse. Son équipe de campagne reconnaît une mauvaise gestion de cette affaire. C'est un euphémisme. Donald Trump, quant à lui, retient sa jubilation avec des vœux de prompt rétablissement. Les républicains préfèrent exploiter la gaffe de la candidate démocrate qui a qualifié les électeurs du milliardaire de pitoyables lors d'un dîner de levée de fonds.
Hillary Clinton qui a repris sa campagne jeudi en Caroline du Nord. Parlons de l'Europe maintenant, Pierre Connessa. À l'occasion du sommet de l'Union européenne, sans la Grande-Bretagne donc, hier à Bratislava, écoutez ce que disait jeudi, donc avant ce sommet, notre correspondant à Bruxelles et spécialiste des questions européennes, Quentin Dickinson, à propos du projet de renouvellement de cette Union européenne après le Brexit.
Français et Allemands restent moteurs de l'opération, mais par défaut, puisque des 3 autres grands pays, l'Italie et l'Espagne, sont en proie à des crises profondes de politique intérieure et que la Pologne s'est rangée chez les nationales populistes. Cet axe franco-allemand est lui-même limité dans son efficacité, compte tenu des élections présidentielles, législatives et sénatoriales au printemps en France et des législatives à l'automne en Allemagne. Et ce n'est pas du côté des autres pays fondateurs qu'on peut espérer trouver la potion magique, néerlandaise et belge étant gouvernées par des coalitions fragiles, et qu'on ne peut demander au Luxembourg seul de redresser l'Union européenne. Chypre absorbée par sa réunification, Malte engluée dans un énième scandale politico-financier, l'Irlande gênée par le Brexit sur sa frontière nord, les trois Baltes tétanisés par leurs voisins russes, le Portugal et la Grèce en déconfiture financière, Roumains et Bulgares s'extirpant de la corruption institutionnalisée, et l'Europe centrale et orientale en pleine introspection identitaire avec de tels acteurs, on mesure bien l'ampleur de la tâche.
Dites-moi, quel état des lieux ?
Oui, c'est un état des lieux qui est effectivement assez juste, cru dans sa description, mais moi je voudrais attirer l'attention sur le fait que la Grande-Bretagne, qui vient de se retirer de l'Union européenne, a publié un rapport parlementaire sur l'intervention en Libye.
On en parlera tout à l'heure.
Parle tout à l'heure, je le garde pour tout à l'heure. Ouais. Simplement, ça vous prouve qu'une chose, c'est que l'Europe de la défense en matière de sécurité n'a pas du tout les mêmes conceptions. Ouais. Un certain nombre de pays pensent que c'est la défense de l'Europe qui importe, c'est-à-dire dans ses frontières, et d'autres, comme la France et la Grande-Bretagne, pensent que la projection de force à distance est un moyen de garantir l'Europe. On en voit la catastrophe avec la Syrie, la Libye, l'Afghanistan, etc.
Alors on va reparler de la Libye tout à l'heure dans la partie africaine de l'émission. Vous voulez dire un mot sur la polémique autour de l'état de santé d'Hillary Clinton, qui est une polémique qui dure depuis un petit moment, parce que Hillary Clinton a déjà eu des pépins de santé.
Oui, mais je voudrais rassurer nos amis américains. Vous savez, nous, le président Mitterrand découvre en 81, alors qu'il a toute sa vie milité pour être président de la République, qu'il a un cancer. Ouais, il tiendra 14 ans, et c'est l'abandon du pouvoir qui va finalement le faire mourir. On a le même scénario avec Bourguiba. Le pouvoir conserve. Bon, de toute façon, ça, même si Hillary Clinton se retire, ça ne rendra pas Trump plus intelligent.
Oui, Trump qui a brandi.
Il relève plutôt de la maladie psychiatrique, lui, mais c'est difficilement soignable.
Trump qui a brandi des papiers montrant qu'il était en excellente santé, à part un petit problème de cholestérol.
C'est beaucoup plus grave que la maladie de Clinton.
Alors, Pierre Connaissant va conclure cette première partie de l'émission. Vous parlez de l'Europe, vous vous interrogez d'ailleurs sur la capacité de l'Europe à résister à cette idéologie diffusée par l'Arabie Saoudite.
Oui, cela dit, moi je suis un vieil Européen, puisque je suis né avant la fondation de l'Europe, et ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'Europe est un moteur explosion, c'est-à-dire que c'est un moteur qui n'avance qu'à chaque fois qu'il y a une explosion, parce qu'il faut trouver de nouvelles ressources pour consolider, pour innover, etc. etc. Bon. C'est vrai que nous sommes dans une crise assez grave, mais c'est vrai que pour la première fois, on peut entamer un débat qui soit assez radical, c'est-à-dire que par exemple la crise des migrants est une crise qui est une conséquence d'un certain nombre de politiques extérieures, si vous voulez, qui sont des politiques unilatérales, encore une fois, dans lesquelles les Européens n'ont jamais pensé à leurs propres intérêts collectifs. Que les Baltes soient tétanisés par la Russie est effectivement extrêmement important, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Que des pays scandinaves ne soient pas concernés par la Libye, on peut aussi le comprendre. Donc il faut arriver à quelque chose qui soit un nouveau ciment de l'Europe, mais en écoutant les autres, pas en pendant que les autres pensent mal.
L'Europe qui est une des cibles, si je puis m'exprimer ainsi, de l'Arabie Saoudite en matière, et là on revient de politique, de diplomatie religieuse.
Alors, la Ligue islamique mondiale, donc qui est le bras armé de l'Arabie Saoudite en matière de politique religieuse, de diplomatie religieuse, a eu une analyse assez fine de l'évolution des grandes démocraties, parce que la Ligue islamique mondiale pense que le véritable modèle, c'est le modèle anglais. Pourquoi ? Parce que c'est un pays communautariste, et donc si les autres communautés ont des droits, les musulmans doivent avoir les mêmes. Et donc, que ce soit en Angleterre, en Belgique, au Canada ou aux États-Unis, la Ligue islamique mondiale a toujours revendiqué des droits pour les musulmans. Alors ces droits se traduisaient de deux manières très significatives, qui étaient l'ouverture d'écoles coraniques et la création de tribunaux islamiques. Quand on a regardé, notamment les corps d'inspection en Grande-Bretagne, ont regardé ce qui s'enseignait dans ces écoles coraniques, ils se sont aperçus que c'était le programme saoudien. Donc, dont je vous décris les grands thèmes, c'est-à-dire racisme, antisémitisme, etc. Les tribunaux islamiques, ils se sont rendus compte que bien que la revendication soit le civil relève du Coran et le pénal relève du droit commun, on s'est aperçu que, ma foi, quand dans le droit coranique vous frappez votre femme, c'est pas du droit pénal, c'est du droit civil. Et donc, ils se vantent d'avoir réconcilié des couples. Il est certain qu'on réconcilie plus facilement un couple dont la femme n'a jamais pu travailler ni jamais pu sortir parce qu'en général, elle renonce au divorce. Donc, on est revenu beaucoup en arrière sur ces droits. Alors qu'en France, nous avons été protégés par notre conception de la laïcité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais accordé le moindre avantage communautariste. Et ça nous a protégés et fragilisés à la fois.
Pierre Connaissant, on va marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures. Et on se retrouve dans 3 minutes. Donc, à tout de suite. Merci pour toutes ces nouvelles du monde. On se retrouve, nous, pour vivre 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invité, Pierre Conessa, spécialiste des questions géopolitiques et de défense, auteur de Dr Saoud et Mr Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, un livre publié chez Robert Laffont.
Une semaine d'actualité.
Nous partirons pour l'Afrique, Pierre connaît ça, dans quelques minutes, après une escale en France, avec d'abord un sourire, bien que l'affaire ne soit pas si drôle sur le fond, quand on apprend, via le canard enchaîné, qu'Éric Ciotti, le député du Parti Les Républicains, tendance dure, grand partisan du rétablissement du service militaire, s'est fait réformer à Anis Al-Jabri.
La question n'avait rien à voir avec le sniper en chef de Nicolas Sarkozy.
Votre position sur le rétablissement du service militaire obligatoire qui est demandé par les élus guyanais.
Mais l'occasion pour le porte-parole du gouvernement était trop belle.
Je vais en faire une petite digression. Que ceux qui sont souvent donneurs de leçons ont quelquefois cherché à éviter le service militaire. Alors le porte-parole que je suis a fait son service militaire. Il était sergent au 1er régiment d'infanterie de marine. Les tirs au flanc et tous ceux qui voulaient éviter, je peux en parler. Et quand j'étais sergent et qu'il y avait un soldat qui avait du mal à porter son sac à dos, je le portais. Voilà. Que ceux qui veulent donner des leçons sur ces sujets-là commencent par être exemplaires. À bon entendeur, voilà.
Petite leçon du sergent Stéphane Le Foll sur l'air du « faites ce que je dis, pas ce que je fais », le rétablissement du service militaire. En tout cas, ils sont nombreux, à droite comme à gauche, à le proposer, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et tout récemment, Arnaud Montebourg.
On va reparler avec vous, Pierre Conessa, spécialiste des questions de défense. Je suis sûr que vous avez une question sur un avis sur cette question du service militaire. Mais plus sérieusement maintenant, il nous faut reparler de la lutte contre le djihadisme, justement, et l'endoctrinement des jeunes via l'Internet. Un nouveau mineur de 15 ans a été interpellé mercredi à Paris, Pierre-Olivier.
Le jeune homme de 15 ans, fiché S, a été repéré sur les réseaux sociaux. En cause, sa proximité avec Rachid Kassim, un djihadiste français installé dans la zone syro-irakienne. Ce trentenaire est soupçonné d'être le commanditaire de plusieurs attentats en France. Mais ce qui inquiète les services de renseignement, c'est l'influence que semble avoir cet homme sur les adolescents. En une semaine, trois mineurs de 15 ans ont été arrêtés, tous communiqués avec Rachid Kassim via la messagerie cryptée Telegram. Selon une source proche de l'affaire, le djihadiste serait très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur cette messagerie Telegram que pour l'instant aucun service secret n'arrive à déchiffrer. Rachid Kassim pourrait donc téléguider à distance des jeunes pour commettre des actions violentes sur le sol français. Autre information, son influence auprès des adolescents serait redoutable même sans les avoir jamais rencontrés. L'un des trois mineurs arrêtés ces derniers jours a d'ailleurs avoué vouloir commettre des crimes. Pour le moment, les enquêteurs passent au peigne fin la messagerie Telegram pour tenter d'identifier de nouveaux liens entre Rachid Kassim et de jeunes Français.
Alors on va revenir sur cette affaire, cette nouvelle arrestation d'un mineur, Pierre connaît ça, mais d'abord le service militaire, le débat fait rage, faut-il le rétablir ?
Non, écoutez, il faut dire à Éric Ciotti qu'il y a de grands ancêtres, si vous voulez, qui ne l'ont pas fait. George Bush a fait sa guerre du Vietnam dans la territoriale, hein. Il était resté sur la garde nationale, ce qui ne l'a pas empêché d'être un chef de... un belligène structuré, si vous voulez. Bon, même Sylvester Stallone n'a pas fait la guerre du Vietnam, et pourtant c'est devenu le symbole de l'ancien combattant américain.
Donc, Donald Trump.
Ah, Donald Trump, non. Tandis que le secrétaire d'État actuel, là, dont j'ai oublié le nom, lui a fait la guerre du Vietnam, mais ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir été opposant à la guerre du Vietnam, ce qui est quand même un paradoxe étonnant. Donc, laissons Éric Ciotti, le fait d'avoir été réformé, on faudrait connaître les raisons, hein. Est-ce pour la vue, est-ce pour autre chose, donc je n'entrerai pas dans cette polémique.
Et sur la question du service militaire, la question politique, là, qui continue depuis des mois, faut-il rétablir en France le service militaire ?
Moi, je vous avoue que c'est une question qui, effectivement, j'ai participé à la réflexion qui a amené à la décision du président Chirac de renoncer au service militaire. Et on était dans une analyse où on pensait que la guerre future serait une guerre de haute technologie avec des instruments de très haute valeur ajoutée, donc pilotée par des professionnels, d'où le basculement dans l'armée professionnelle. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas comme on l'avait prédite. Hein, et on s'aperçoit qu'au contraire, on a en face de nous des gens qui ont renversé tous les principes stratégiques qu'on avait cru être ceux applicables dans les guerres. Au lieu de faire la guerre là-bas, ils font la guerre ici. Au lieu de penser qu'on va faire zéro mort avec nos bombes ou pas de dommages collatéraux, en fait, ils disent « mais il y a des dommages collatéraux et on va faire les mêmes chez vous ». Et donc, c'est les attentats de masse. Là où on dit « il faut sauver le soldat et le préserver », là, ils disent « nous, on a des gens qui sont prêts à se sacrifier ». Donc, on a tous les contre-concepts qui montrent que cette conception de la défense-là, celle sur laquelle on a défini les armées professionnelles, ne fonctionne que dans certains types de guerres. On s'aperçoit qu'on est maintenant amené à utiliser l'armée de terre pour faire de la territoriale, c'est-à-dire pour sécuriser le territoire. Donc il y a un moment où il faut ouvrir le débat stratégique en se disant, moi je plaide pour ça depuis le début, ce n'est pas en augmentant le budget de la défense qu'on sécurisera la France contre les terroristes. C'est plutôt en augmentant le budget de la police et des services de renseignement, et je ne crois pas qu'un rafale de plus nous permettra de lutter contre les terroristes. Voilà, donc si vous voulez, on est dans cette problématique où on est plus dans une concurrence budgétaire et une concurrence des anciens par rapport aux modernes que dans un véritable débat stratégique.
L'interpellation d'un, une nouvelle interpellation d'un mineur de 15 ans à Paris ces derniers jours vous incite à dire quoi aujourd'hui?
Écoutez, moi je travaille aujourd'hui sur la propagande francophone de Daesh. Bon, pour une raison très simple, c'est que la plupart des gens qui ont voulu partir en Syrie ne parlaient ni l'arabe ni l'anglais. Donc je me suis demandé, qu'est-ce qui fait la conviction, si vous voulez, de Daesh sur ces jeunes, sur ces adolescents, sur ces gens mûrs, sur ces familles? Bon. La première remarque que je voudrais faire, c'est que Daesh est un acteur de communication mondiale, qui n'a pas d'équivalent. 11 langues, d'abord, ce qui est quand même très original, avec l'idée de cibler les populations musulmanes dans les pays où elles sont expatriées, autant que dans l'ensemble arabo-musulman. Et deuxième chose, une capacité tout à la fois à faire de la propagande officielle, si vous voulez, comme Goebbels, hein, c'est-à-dire on tient le territoire et puis le reste, c'est la femme à la maison, le combattant, etc., etc. Mais aussi la capacité à atteindre des individus dispersés sur le territoire et donc de donner naissance à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire du terrorisme indigène. On vous empêche de partir là-bas, donc faites l'attentat chez vous. Et cette capacité de conviction, elle porte évidemment toutes les fractures de notre société, parce que c'est l'adolescent qui tout à coup va trouver un projet, c'est l'individu qui se sent mal à l'aise dans cette société, très satisfaite d'elle-même alors qu'elle est en crise. Vous savez, moi je suis toujours frappé du fait qu'un PDG se satisfasse des augmentations qui s'est fait accorder par son comité des rémunérations, et non pas du nombre de l'emploi qu'il a créé. Au contraire, il se vante plutôt du nombre d'emplois qu'il a détruit. Ouais. Donc on est dans une société cynique. Et cette société cynique, on comprend qu'on ne puisse pas y adhérer totalement. Et des adolescents sont par nature la population fragile.
Alors, et pendant ce temps-là, vous, comme vous l'écrivez dans ce livre, Pierre Conessa, dans votre enquête sur la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, pendant ce temps-là, leur réseau, je vous cite, des anciens étudiants des universités religieuses wahhabites fonctionne en France, et certains imams de la région parisienne continuent à être salariés de Riyad. On nous a cité le chiffre de 5000 euros par mois.
Oui, alors l'originalité du système saoudien, c'est que les Saoudiens ont conçu une organisation extrêmement intelligente qui est un espèce de mélange entre un soft power à l'américaine et un système de propagande communiste. Soft power à l'américaine parce que vous avez évidemment une politique publique hein, qui est dans la nature même du régime, plus des grandes fondations privées qui vont distribuer de l'argent, plus des ONG humanitaires, plus de, etc. Et puis un système soviétique parce que vous avez l'équivalent de l'université Lumumba avec l'université islamique de Médine, qui va recevoir tous ces étrangers destinés à devenir de futurs wahhabites. Et puis, évidemment, une idéologie qui est le wahhabisme, qui est au moins aussi inoxydable que le communisme stalinien. Bon. Et donc, on a un système qui a été très efficace parce qu'à partir de 73, ce système dispose de beaucoup d'argent. Et donc, le système va s'accélérer. Moi, j'estime que, en une trentaine d'années, ils ont formé à peu près 25 000 à 30 000 cadres, dont l'obligation était de retourner faire de la prédication dans leur pays. Alors on a tiré ces cadres en particulier en allant les débaucher à Al-Azhar, en leur promettant la bourse, le logement à l'université d'Al-Azhar, bon, justement pour pouvoir les attirer vers Médine. Et en particulier, pour vos auditeurs, une des grandes zones d'influence de ce wahhabisme ou de ces gens qui ont été recrutés, si vous voulez, localement pour repartir chez eux, c'est la zone sahélienne et la zone des pays de l'Afrique francophone. La technique est assez simple. On crée des madrassas. Dans ces madrassas, les parents savent que les enfants sont nourris, qu'ils ont les livres, qu'ils ont l'ardoise, qu'ils ont tout ce qu'il faut, alors que le système public est en pleine déliquescence. Et puis, à travers ces madrassas, ensuite, on attire les meilleurs pour les faire partir vers Médine, etc. Et donc, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de responsables qui sont des anciens de l'université de Médine, qui sont à la tête des communautés musulmanes et qui instrumentalisent tout le discours politique dans le sens du wahhabisme. Le code de la famille n'est pas coranique, donc il faut s'y opposer. Le droit de la femme ne peut pas être l'équivalent du droit de l'homme, donc il faut s'y opposer. Et on a même le cas de Mahmoud Diko, qui est le président du Conseil islamique du Mali, qui n'a pas voulu critiquer l'invasion, si vous voulez, salafiste venue du Nord. Voilà.
Et c'est aussi le cas en France.
C'est aussi le cas en France, mais alors le cas est beaucoup plus discret dans le cas de la France, parce que d'abord, nous n'avons aucune loi sur le contrôle des subventions étrangères versées à des associations, et ça, c'est un manque parlementaire terrible, parce que finalement, donc, nous pouvons avoir des imams qui sont aujourd'hui salariés de Riyad. Donc on m'a cité le chiffre de 5000 euros, ce qui est quand même pas mal, ça permet de vivre. Et puis souvent, ils sont des activités annexes, c'est-à-dire qu'ils labellisent, si vous voulez, le Hajj sur des agences, ils labellisent des produits halal, etc. Donc ça vous fait remarquer, c'est un processus d'intégration, hein, je veux dire.
Dans un sens, oui.
Une semaine d'actualité.
Alors vous parliez, Pierre Conessa, du Mali à l'instant. Partons justement pour le continent africain. Et cette semaine, nous allons nous attarder en Libye. D'abord pour parler d'un rapport du Parlement anglais sur la guerre en Libye en 2011 menée par David Cameron avec Nicolas Sarkozy et l'appui des Américains. Correspondance mercredi de Muriel Delcroix à Londres.
David Cameron a fondé l'intervention militaire britannique en Libye sur des suppositions erronées et une compréhension incomplète du pays et de la situation. Dans ce rapport qui n'épargne pas l'ancien Premier ministre, les députés estiment que le gouvernement britannique n'a pas su voir que la menace contre les civils était exagérée et que la rébellion comprenait une importante composante islamiste. Ils accusent aussi David Cameron de ne pas avoir cherché à trouver un moyen d'écarter le leader libyen Muammar Kadhafi. Un engagement politique aurait pu permettre de protéger la population, de changer et de réformer le régime à un coût moindre pour le Royaume-Uni et la Libye, note la Commission, pour qui l'ex-Premier ministre porte la responsabilité ultime de l'échec à développer une stratégie cohérente en Libye, dont les résultats se font encore sentir aujourd'hui. Le rapport déplore enfin l'absence de plan pour la pré-intervention. Ce constat à froid contraste violemment avec la fierté affichée par David Cameron, qui avait jugé à l'époque cette campagne en Libye un triomphe en matière de politique étrangère. L'ancien locataire du 10 Downing Street n'a jamais voulu venir témoigner devant la commission. Il a définitivement abandonné sa carrière politique lundi en annonçant renoncer à son siège de député.
Alors pour que les choses soient claires, il faut rappeler ce qui s'est passé exactement en 2011 en Libye. Olivier Four.
Quand les Britanniques et les Français décident d'intervenir en Libye, il y a urgence. Les chars du colonel Kadhafi font route vers Benghazi et le dictateur libyen a promis de nettoyer les poches de révolutionnaires, maison par maison, rue par rue. Mais le rapport rappelle qu'en 24 heures, l'intervention militaire destinée à protéger la capitale de la Cyrénaïque était terminée. Les renforts blindés de Kadhafi réduits en pièces aux portes de Benghazi sur la route d'Ajdabiya par les avions français, américains et britanniques. Londres et Paris, deux pays à la forte culture expéditionnaire, ont donc transformé une résolution de l'ONU visant à protéger des civils en une aventure conduisant à un changement de régime. Le 31 octobre 2011, quand les opérations militaires de l'OTAN prennent fin, les Anglais comme les Français n'ont pas de plan pour la reconstruction politique de la Libye. Cet épisode libyen a été la pire erreur de mon mandat, concédé Barack Obama au printemps dernier. Selon le rapport, le gouvernement britannique n'a pas perçu la menace transnationale que constituaient alors les éléments djihadistes liés à la rébellion. 14 mois plus tard, la France entrait en guerre au Mali et retrouve aujourd'hui encore des armes libyennes au Sahel. Les Russes, eux aussi, ont tiré les leçons de l'intervention occidentale en Libye en se donnant les moyens militaires de protéger leurs intérêts en Méditerranée.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Conessa. Pierre Conessa, nous avons fait durant cet été une série d'émissions avec Claude Angéli, longtemps rédacteur en chef du Canard Enchaîné, qui est toujours journaliste et qui écrit chaque semaine une chronique importante sur ces questions de djihadisme, notamment. Et le leitmotiv de ses propos, c'était les journalistes font leur boulot, mais ça ne va pas plus loin parce que le Parlement, le pouvoir politique n'embraye pas, n'en tire pas les conclusions. Là, c'est un cas d'école.
Oui,
le Parlement britannique, lui, a fait son boulot.
Absolument. Je crois que c'est absolument... D'ailleurs, sur le Rwanda, on avait la même chose. On a créé une commission d'information, sans aucun pouvoir d'investigation.
En 98, ouais.
Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a, il y a plusieurs choses qui sont des traditions constitutionnelles, et puis il y a le problème de, plus spécifique du cas de la Libye. Tradition constitutionnelle, parce que, si vous voulez, avec le général de Gaulle, on dit que les affaires étrangères sont le domaine réservé du président, et effectivement, on aboutit à ce résultat étonnant que jamais le Parlement ne se saisit d'un débat sur la politique africaine de la France. Bien évidemment pas à l'époque du général de Gaulle, mais jamais par la suite, ce qui est quand même assez incompréhensible. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, c'est une tradition majoritaire en France, c'est-à-dire que la majorité ne critique pas le président quand elle est de la même couleur politique. Donc, c'est en général à l'opposition de le faire, il n'y a pas cette indépendance d'esprit qu'on a chez les pays anglo-saxons. Et donc, le Parlement français fait parfois des commissions d'enquête complètement ridicules, comme celle sur le conflit du Haut-Karabakh, où la France n'a aucun intérêt, alors qu'elle ne s'intéresse pas, avec des moyens d'investigation parlementaire, à des sujets comme celui-là. Or, on est quand même aujourd'hui avec un document britannique qui, évidemment, d'ailleurs dit que c'est la France qui a attiré la Grande-Bretagne dans le conflit, qui nous a mis dans une situation extrêmement difficile, crise des migrants, etc., etc. Une situation d'insécurité, de dispersion des armes qui est extrêmement importante, et insécurité qui fait que même Bernard-Henri Lévy n'y va plus.
C'est vous dire
si c'est grave.
C'est dire.
Bon. Et donc, on est dans cette situation où on aurait dû, si vous voulez, se demander quelle est l'efficacité de l'arme militaire pour gérer un certain nombre de crises. J'insiste en plus sur le fait qu'on a motivé ça par le devoir de protéger, nouvelle invention humanitaro-militaire, qu'on n'a jamais appliquée aux Palestiniens.
Hein. Ouais. C'est pas de poids, de mesure.
Mais par contre, on repart, si vous voulez, en Syrie. Et encore une fois, on se retrouve dans la même posture, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus que des Occidentaux à se battre contre Daesh, puisque ce qui était présenté au départ comme un moyen de calmer le Moyen-Orient, en fait, tous les pays arabes sont aujourd'hui en train de se battre au Yémen. Et donc, nous, Occidentaux, à nouveau, nous trouvons face à une crise dans laquelle nous n'avons aucun intérêt. Pourtant, nous la gérons militairement, donc je ne sais pas. Il faudrait inviter d'autres personnes que moi.
Pierre connaît ça. La Libye aujourd'hui, c'est un pouvoir divisé. Ces derniers jours, le contrôle par le général Khalifa Haftar, non reconnu, il faut rappeler, par la communauté internationale des puits de pétrole du pays, a semé le trouble. Khalifa Haftar, un homme d'influence, Houda Ibrahim.
Le vieux militaire chevronné possède des connexions multiples à l'étranger. Il a des relations africaines fortes, comme avec l'Égypte et le Tchad. Il a aussi ses relations au Moyen-Orient. La France et l'Italie l'ont aidé dans sa guerre contre les djihadistes. Sur le plan intérieur, il a la bénédiction vitale des tribus. La guerre qu'il mène toujours contre les djihadistes lui a offert un soutien populaire plus large. Son offensive sur les champs pétroliers a accentué son influence. Ce dernier coup de force risque certes de faire sauter l'accord politique libyen signé au Maroc, mais il promet de mélanger les cartes avant de le redistribuer. Posséder les clés de champs pétroliers le replace à nouveau comme un homme incontournable. La communauté internationale semble n'avoir d'autre choix que de composer avec lui. Quant aux Libyens, qui refusent en majorité l'ingérence occidentale dans le pays, ils appellent à manifester vendredi. Le hashtag « Nous sortons pour notre souveraineté » apparaît en tête de la toile en Libye. Ils manifestent contre l'ingérence, les milices et pour soutenir l'armée.
Houda Ibrahim, mercredi, le général Haftar qui était mercredi justement au Tchad, reportage de notre correspondant Majasra Nako.
Le général Khalifa Haftar, accompagné d'une très forte délégation, a été accueilli par de hauts gradés tchadiens. Il a ensuite été invité à déjeuner avant d'être conduit aux plus hautes autorités. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans le sud libyen, mais surtout la présence annoncée de rebelles tchadiens sur la frontière nord du Tchad. L'affaire est devenue très sérieuse au point où le chef de l'État a décidé de la suivre personnellement, a indiqué RFI une source sécuritaire. Pour d'autres sources, ce sont les occupations de puits de pétrole par les hommes de Haftar ces derniers jours qui ont motivé son déplacement à N'Djamena, la communauté internationale s'étant rendue compte que l'ancien commandant des troupes anti-Kadhafi est devenu incontournable sur le plan régional. Même si le contenu de l'entretien avec les autorités tchadiennes n'a pas été révélé, beaucoup d'analystes pensent que la brève visite du général Haftar, qui n'est pas la première à N'Djamena, a été motivée par un souci sécuritaire au niveau des frontières entre la Libye et le Tchad.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, écrivez-nous pour nous dire, par exemple, depuis quand vous écoutez l'émission. Certains d'entre vous l'ont déjà fait. Ainsi, je salue Akilou, qui nous écoute depuis 1998 à Parakou, au Bénin. Garance, depuis 2005, comme Ismaël Mori Kaba. Kobo Maurice à Ouaga, depuis 16 ans. Bonjour à Jacques Malal à Nouakchott. À Baba Mahamat, qui nous écoute, lui, à Pretoria, depuis 2007. Et à Aminata, à Paris, depuis 2009, comme Carole. Merci à tous. Et à toutes.
7 jours en Afrique.
Et nous sommes toujours en compagnie de Pierre Conessa, la Libye donc plus divisée que jamais, 6 ans après l'intervention franco-anglaise avec l'appui des Américains.
Je crois que le cas libyen démontre combien, avant de partir en guerre, il faudrait une analyse politique de la situation pour mesurer quelle est la capacité à agir diplomatiquement, politiquement, militairement. Bon, nous avons toujours, depuis 91, réagi militairement, avant même de savoir quelle était la crise. L'exemple le plus caractéristique est celui de l'Afghanistan. On savait que les Anglais s'y étaient cassés les dents au 19e siècle. On sait que les Soviétiques, l'armée soviétique, qui était l'une des armées conventionnelles les plus puissantes du monde, s'y étaient cassés les dents en 79. On y retourne avec la même contingent, plus les compagnies de sécurité privées. On étend la guerre au Pakistan. On y reste plus longtemps. Et malgré ça, si vous voulez, vous avez ensuite l'enchaînement, la Libye, puis après la Syrie, etc. Donc il y a une espèce d'aujourd'hui de blocage intellectuel chez les stratèges occidentaux sur la manière de traiter le sujet. Moi, je cite toujours une phrase que je trouve extrêmement intéressante pour comprendre la crise afghane. C'est le chef de guerre afghan qui disait « On n'achète pas un chef de guerre afghan, mais on peut le louer ». Bon. Et on est dans cette problématique, c'est-à-dire quand on est dans une guerre tribale, il faut savoir si on a une capacité à agir. Et en tout état de cause, c'est pas sur la capitale que se joue le sujet. Mais évidemment, elle a expliqué ça.
Alors Pierre connaît ça, on a entendu à deux reprises dans les explications de nos confrères le terme « la communauté internationale ». C'est une expression qui me surprend toujours.
Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a des concepts comme ça en politique internationale qu'il faut reprendre. L'opinion publique mondiale, la communauté internationale. Donc Régis Debray citait souvent un exemple, je crois que c'est à propos de la résolution de 1973, celui qui sur légitime la Libye, hein. Celle qui légitime l'interdiction de survol aérien, qui en fait s'est traduit par une opération militaire, que l'ensemble des pays qui avaient voté positivement représentait 9% de la population mondiale.
C'est une petite communauté internationale.
C'est une petite communauté internationale, mais c'est la nôtre, c'est nous.
C'est
voilà.
Nous.
Donc il suffit qu'on dise, nous en particulier, Français, utilisons beaucoup ce terme, parce qu'on est plus interventionniste que les Américains. Et donc c'est nous qui disons, nous ne pouvons pas laisser, ou la France, membre permanent du Conseil de sécurité puissance nucléaire, en un seul mot si vous voulez, à ce moment-là vous dites ce que vous voulez derrière, qu'on ne peut pas se désintéresser, nos intérêts, les francophones, cette région du monde qui compte tant d'amis, etc.
Alors, revenons au wahhabisme qui est au cœur de votre livre sur l'Arabie Saoudite, évidemment Pierre connaît ça, vous dites qu'il a été introduit en Afrique dans les années 60.
Oui, parce que, si vous voulez, l'histoire de la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite commence avec le nasserisme. Quand Nasser qui avait
une réaction au nasserisme.
Oui, Nasser avait un discours très virulent à l'encontre des monarchies du Golfe. Hein, et donc, lui brandissait son grand, axe diplomatique était le panarabisme. Bon. Et évidemment, comme le panarabisme concernait directement les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite oppose le panislamisme. Donc avec un champ politique plus large. Et donc pendant un certain temps, la stratégie saoudienne va être d'entourer, si vous voulez, l'Égypte, et en particulier la zone sahélienne, contre ce socialisme arabe qui va quand même fleurir entre l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, etc. Bon. Donc l'inquiétude saoudienne était grande. Mais dès le début, il y a l'idée, on encercle l'Égypte, d'autant plus que, rappelez-vous, Nasser utilisait Al-Azhar pour faire un islam moderniste. Bon. Mais en fait, pour nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on considérait que l'Arabie Saoudite était un nain géopolitique. Et puis en plus, il était anticommuniste, donc ça suffisait. En fait, la chose explose à partir de 73, c'est-à-dire quand tout à coup, l'argent commence à couler à flot en Arabie Saoudite.
Alors, vous dites aussi, Pierre Connaissant, dans votre livre, que là, je vous cite, l'obsession constante de Riyad contre les chiites trouve un surprenant point d'application au Mali.
Oui, parce que effectivement, les télégrammes qu'ont révélé WikiLeaks, c'est-à-dire ces 70 000 documents diplomatiques saoudiens, montrent que il y a une espèce de maintenant, aujourd'hui, une espèce de constante, une obsession anti-chiite saoudienne absolument partout. Et donc partout, les ambassadeurs reçoivent des instructions du centre de Riyad pour dire surveillons la communauté chiite, attention, il faut alerter les autorités locales, il faut empêcher les chiites d'accéder aux structures représentatives des musulmans locaux, etc., etc. Et donc dans les pays où vous avez en particulier ces communautés qu'on appelle les Syriens, qui sont en fait des Libanais chiites qui se sont expatriés, il y a une continuelle obsession. Et dans certains pays d'Afrique, on a effectivement des instructions très fermes de les contrer.
Alors que l'Iran, elle, a une politique un peu différente en Afrique, ne joue moins sur l'opposition religieuse et plus sur la situation sociale des populations, non ?
Oui, l'Iran khomeiniste avait quand même volonté de diffuser un discours révolutionnaire. Alors le terme de révolutionnaire pourrait tromper, parce qu'effectivement on pourrait penser que c'est les classes pauvres contre les autres, etc. Mais le discours wahhabite aussi est révolutionnaire, en Afrique, dans l'islam africain. Parce que si vous prenez par exemple la confrérie des Tijaniyya, qui est une grande confrérie installée, qui a un dominant de soufis, etc., le wahhabisme apparaît comme un élément de contestation politique des pouvoirs de ces cadres, qui évidemment se pérennisent depuis les indépendances. Bon. Et donc les deux idéologies ont des aspects révolutionnaires. Et donc, à partir du moment où on prend la tête, si vous voulez, des structures représentatives de l'islam local, on peut accuser un homme politique de critiquer l'islam, accusation dramatique, si vous voulez, le takfir absolu. Ou alors, vous pouvez accuser votre opposant, en fait, de négliger tel ou tel aspect coranique. Et donc, c'est un véritable enjeu de pouvoir politico-religieux en Afrique.
Alors, pour conclure, Pierre Connaissant, vous dites dans ce livre, et vous vous étonnez qu'il n'y ait pas vraiment d'études de cette diplomatie religieuse. Vous dites que ce thème est resté en dessous des radars académiques.
Oui, c'est vrai. J'avoue que ça m'a étonné. Mais en même temps, quand j'ai mené toute ma série d'entretiens, que j'ai travaillé avec des amis arabophones qui sont des spécialistes du Moyen-Orient depuis 30 ans, tous m'ont demandé à garder l'anonymat. Tous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on est dans la situation du stalinisme de la Belle Époque, c'est que il faut faire très attention parce qu'on risque de se voir interdit de pouvoir faire du terrain quand on est un universitaire, on peut se risquer de se trouver mal à l'aise quand on est dans une enceinte musulmane, on peut se retrouver accusé d'être un mauvais musulman, enfin vous avez toute la gamme, si vous voulez, des accusations possibles. Sur lesquels Riyad a évidemment une inventivité qu'elle ne déploie malheureusement pas dans les domaines de la démocratie. Donc on est dans des systèmes, si vous voulez, qui sont aujourd'hui une espèce de tétanisation de la pensée. Donc moi, je ne prétends pas être un arabophone, je ne prétends pas être un islamophologue. La seule chose qui m'intéresse, c'est le mécanisme de structure internationale et ses institutions telles qu'elles fonctionnent. Et c'est peut-être pour ça que finalement, ça m'a permis de décaper, si vous voulez, tout ce qui veut être un argumentaire théologique d'une idéologie qui était finalement une idéologie totalitaire religieuse, comme on en a malheureusement connu pas mal et qu'on connaîtra encore dans l'avenir.
Merci Pierre Conessa, votre livre s'intitule « Le docteur Saoud et Mr. Jihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite » avec une préface d'Hubert Védrine. Cet ouvrage est publié chez Robert Laffont.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. N'hésitez pas à nous écrire, ne serait-ce que pour nous dire donc depuis quand vous écoutez l'émission à l'occasion de nos 20 ans. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons là du transhumanisme avec une scientifique, Béatrice Jousset-Couturier. Demain dimanche, Idées, 17h10, heure de Paris, 16h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur votre radio préférée.